Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
On parle d'histoire d'amour parce que l'amour vit aussi dans le récit qu'on en fait, ne serait-ce que celui que l'on se raconte à soi-même, à tort ou à raison. Si en effet, l'amour appelle une parole et un « je t'aime » toujours universel et toujours singulier, alors les poètes et les romanciers nous permettent justement de mettre des mots sur cette expérience pour penser ce qui nous bouleverse et nous métamorphose. Des mots pour le dire, tel est l'objet de la série de Chemin de la connaissance, consacrée au tropisme de la passion amoureuse que proposait en 2002 Catherine Pontimbert, dont nous écoutons ici la quatrième émission.
La passion amoureuse est un langage. Elle invente les mots pour se dire et la source de son inspiration n'est jamais tarie. Mais plus elle apaise le désir de se raconter, plus elle se dit, plus elle a soif de ce feu qui est son seul breuvage. Le récit de la passion est intarissable, insatiable. La littérature sans elle n'existerait pas et toute forme de création sans doute en dépend.
Une des grandes beautés de la passion, me semble-t-il, Annie Ernaux, c'est qu'elle est très créatrice et qu'elle invente sans cesse, et notamment dans le domaine du langage, où soudain on a le sentiment que les mots ordinaires, les mots tous les jours se trouvent renforcés et qu'ils ont un pouvoir nouveau.
Oui, je distinguerais, pour parler du langage de la passion, il y a ce langage intérieur. C'est difficile de dire ce qu'il est, ce langage, à part quelques mots qui vous échappent et qui sont de... Donc, oui, je pense à la fin du livre de Joyce Ulysse, où vous avez le monologue de Molly Bloom qui est cette acceptation de l'amour. Elle dit oui, et c'est répété, oui. Et c'est ça, c'est une sorte, effectivement, de ce qu'il y a d'acceptation totale. Il y a aussi le mot tout simple, c'est effectivement, on dit à l'autre « je t'aime », point, c'est tout. Et ce mot « je t'aime » est investi, il n'a pas d'au-delà, ce terme. Tout est là-dedans, hein. C'est-à-dire, c'est toi et personne autour, ça veut dire « je suis entièrement à toi ». Enfin, et c'est lourd d'un sens énorme. Bon, ça, c'est ce langage-là. Il y a le langage qu'on... pour les autres, alors là qui est beaucoup plus, justement, comme on disait tout au début, beaucoup plus retenu, voilà. Bon, je me souviens que dans mon enfance, autour de moi, avec une retenue toute paysanne, on disait « il a le béguin ». c'était beaucoup déjà de dire cela, « il a le béguin ». Ou avoir une expression, c'était aussi « avoir les idées arrêtées ». Je trouve très, très belle parce qu'effectivement, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus d'autres idées que cet être qu'on a rencontré. Puis alors, il y a le langage de la littérature et le langage aussi, un langage qui m'est assez cher, qui est le langage de la chanson. Vous avez ce langage de la chanson. Alors évidemment, on dit c'est un langage pauvre, la chanson d'amour, c'est un langage répétitif, etc. Et pour ceux qui sont à ce moment-là dans l'amour et dans la passion, c'est le seul au fond. C'est le seul qui dise ce qui est.
Mais avec le « je t'aime », cette petite phrase toute simple, ce que l'on appelle la déclaration d'amour, on a le sentiment que dès lors qu'elle est prononcée, un champ nouveau d'expérience s'ouvre, qui ne ressemblera plus jamais à ce qu'on a vécu précédemment.
Oui, ça, oui, je crois. Je crois que c'est l'entrée quelque part. Je crois.
C'est une porte qui s'ouvre.
Oui, c'est une porte qui s'ouvre. Tant que ça n'a pas été dit, sans doute, il y a tout un champ d'expérience et un champ de langage qui ne peut pas avoir lieu.
Là où la passion, me semble-t-il, Annie Ernaux invente beaucoup dans le registre du langage, c'est lorsqu'on aborde tout l'érotisme, le corps de l'autre. Tout cela est l'objet d'une inventivité de langage extraordinaire.
Oui, ça m'a beaucoup frappée de remarquer à quel point, au fond, la passion rend intelligent. Dans la création de l'érotisme, et que certainement on n'est jamais aussi inventif, aussi perceptif à toutes sortes de choses que dans la passion. Et alors à ce moment-là, on s'aperçoit combien les films X, toute cette pornographie est mécanique, sans intérêt, et est très loin de ce qu'est le véritable érotisme, qui prend des formes, qui prend toutes les formes possibles, avec non seulement concernant le corps de l'autre, mais aussi l'imaginaire, tout simplement, un imaginaire même en son absence.
Est-ce que cette façon de vivre une passion en créant au fond un territoire qui pour un certain temps va être habité par deux êtres, est-ce que ça n'est pas une façon de créer une œuvre ?
Enfin, moi je crois, je pense que l'écriture et la passion ont vraiment des points communs, se ressemblent. Parce que très profondément, là, l'un et l'autre sont la lutte contre le temps et contre la mort. Sont vraiment, c'est la même essence. L'essence qu'il y a dans l'art, d'une manière générale, dans la littérature et dans la passion. Par exemple, l'imaginaire au sens le plus large, hein, c'est-à-dire qui fait fonctionner aussi bien la mémoire, l'imaginaire est très fort dans la passion. Par exemple, on va dans l'absence de l'autre, on va par exemple chercher à se représenter comment va se passer la prochaine rencontre. Ça occupe énormément. Bon. Et tout ce que l'on va faire pour tout ce qu'on va lui dire, ce qu'on va dire à l'autre, tout ce qu'on va lui offrir, tout ce qu'on va imaginer aussi faire de pour les, c'est peut-être plus pour les femmes, mais comment on va s'habiller, tout cela est de l'ordre de la création, le lieu où l'on va se rencontrer, ce que l'on va faire dans l'ordre de l'érotisme, les lieux où on va faire l'amour, tout cela est une création permanente. Pour peu que s'y mêle la jalousie, alors là, c'est un autre imaginaire qui va fonctionner, et qui fonctionne alors lui d'une manière absolument débridée, en assemblant tous les signes. Et au fond, si on réfléchit, lorsqu'on écrit, on rassemble les signes de quelque chose. On ne décrit jamais la totalité de la réalité, on décrit quelques signes de la réalité. Et dans la passion, on va chercher continuellement les signes de l'amour. Ça, c'est une constante, on cherche les signes de l'amour. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça, il a dit, la première fois qu'il a dit « je t'aime », et c'est... voilà, tout est là. Donc c'est cette création permanente que je vois dans la passion et dans l'écriture. Et on peut dire après que j'étais très très frappée de parler avec des gens qui étaient un peu âgés, au fond, ce dont ils avaient le regret, plus que de tout, c'était ce roman qu'ils avaient au fond vécu, hein, c'est ce roman, on dit roman d'ailleurs, hein, j'ai vécu une belle histoire, et une histoire dans le sens de que je peux me la raconter encore, je peux retrouver, et à ce moment-là j'étais un héros ou une héroïne de roman.
Quel lien faites-vous, Pierre Mertens, entre une passion amoureuse et l'écriture et la littérature ?
Mais je crois que si l'amour n'existait pas, la littérature l'aurait inventé. Je crois que Je ne connais rien qui fasse aussi bon ménage, avec l'amour que sa transcription. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'amour sans histoire d'amour. Et je ne parle pas seulement des poètes ou des écrivains qui le chantent. Je crois que Monsieur Tout-le-Monde se raconte de toute manière quand il aime une histoire. Et il tient cette histoire, il l'échafaude, il a son scénario, il s'y cramponne. Il essaye d'ailleurs d'en persuader le partenaire. Et rien n'est aussi dangereux que de vérifier que les scénarios ne concordent pas, que l'histoire de l'un n'est pas l'histoire de l'autre. Mais non, c'est pas du tout ça qui nous est arrivé, c'est autre chose. Ce genre de discordance est terrible parce que chacun coltine sa propre mythologie sentimentale et érotique, et si tout à coup il vérifie qu'il y a une discordance, une dissonance entre les deux, c'est un peu catastrophique. Et c'est ce qui fait que l'amour ne peut survivre d'ailleurs que grâce à ce récit qu'on se fait tout au long. Et c'est ce qui fait que dans tout roman important, il y a de l'amour. Tous les grands romans sont des romans d'amour.
Oui, mais dans une passion, Pierre Mertens, il y a deux imaginaires qui se rencontrent. Oui, mais... Alors qu'en littérature, l'autorité de l'auteur, c'est son imaginaire à lui qui dicte le texte de l'histoire.
Peut-être que même avec mauvaise foi, il va s'attribuer le scénario de l'autre, il va le transformer, se l'attribuer, dire, convaincre l'autre que le bon scénario, c'est le sien. Il y a une espèce de mauvaise foi traditionnel de l'auteur, fut-il génial, je veux dire, c'est évident. C'est très amusant, quand vous demandez à un écrivain pourquoi il écrit, ça tourne quand même toujours un peu autour de ça, même quand on a l'air de parler d'autre chose, ça va du « pourquoi écrivez-vous Samuel Beckett, bon qu'à ça », qui est quand même la plus belle réponse d'écrivain qui ait jamais été formulée, où l'amour a l'air très absent, jusqu'à Jean Cayrol qui dit « j'écris pour mon bien », ce qui, moi, m'a toujours beaucoup ému. J'ai connu Cayrol et je trouvais que c'était une réponse très digne et très belle. Et Genet qui dit « j'écris pour être aimé ». Enfin, que Genet, ce grand rebelle, ce grand révolté, cet homme qui a l'air de se satisfaire d'une espèce de solitude quelquefois haineuse ou hargneuse, ou avoue qu'il écrit pour être aimé. Ou Mauriac qui dit « on écrit toujours pour les femmes ». C'est quand même curieux, quand même, c'est très inattendu. Mais tout ça a quelque chose, il y a un commun dénominateur à tout ça. Je veux dire, tout ça se ressemble quand même étrangement. S'il n'y avait pas de partenaire sur Terre, on n'écrirait pas. Si la vie d'ailleurs vous comblait, pourquoi écrire? Donc, on n'écrit jamais que pour donner une suite au monde, à un monde imparfait, un monde incomplet, et qui ne peut être complété que par l'amour. On n'écrit pas quand on est immergé dans une passion. On attend qu'elle ait succombé ou qu'elle se soit relativisée ou attiédie pour tout à coup la transcrire éventuellement ou trouver encore l'énergie de la relater. Mais si elle subsistait, à quoi bon écrire? À quoi bon créer? L'amour est une telle création et tellement insurpassable que on ne doit plus recourir à l'art quand on est follement amoureux. Heureusement que les amours s'interrompent, parce que sinon il n'y aurait même pas de littérature.
Il n'y aurait pas de création.
Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étranger et brûlé. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner, je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes moi-même à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour remèdes impuissants, en vain sur les autels ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte, et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer.
La passion amoureuse a trouvé des expressions littéraires particulièrement riches à certains moments de l'histoire. C'est le cas de l'époque baroque. Sans doute parce que le baroque était un regard nouveau posé sur le monde et une époque qui avait le sentiment d'avoir repoussé des limites. Ivre d'originalité et d'invention, le baroque a développé une rhétorique des passions. Il les a explorées, inventoriées. Il a voulu codifier, y compris l'infini et le non codifiable. Sur la codification des passions, l'apport de l'espagnol Lope de Vega est particulièrement important. Benito Pellegrin.
Il me semble qu'il est fondamental et il est complètement méconnu, mais dans son art de faire des comédies pour ce temps, de faire du théâtre en ce temps, pour ce siècle, donc quelque chose d'actuel, il pose la question, il dit ceci, décrivez les amants avec leur passion qui remue grandement tous ceux qui les écoutent, dont ressort, dont vous parliez, fondamental du théâtre, la passion, bien sûr, des amants, mais comment les exprimer? Alors là, c'est la seule rhétorique précise dans son vague, malgré tout, qui existe à ce temps-là, pour les passions, au théâtre. Il dit les figures rhétoriques importent. Il dit aussi les ironies et les hésitations, c'est-à-dire les interrogations, les apostrophes et les exclamations. Or, évidemment, l'interrogation traduit l'affectivité, et c'est écrasant au théâtre, dans Britannicus, et qui, madame, Britannicus est mort, je connais l'assassin, et qui, madame, vous? Voilà, l'exclamation, etc. Moi, point d'interrogation. Et les exclamations, si vous regardez Racine, dont on fait le parangon du théâtre régulier, du théâtre classique français, je trouve que c'est une erreur que de le voir par le petit bout de la lorgnette. Il est complètement dans la théorie européenne baroque des affects, des passions. Et rappelez-vous, Donc, ce jeu des passions, dont somatique, Descartes dit on rougit, on pâlit, etc. Vous le trouvez chez Corneille, Pauline, dont la réussite, la passion jugulée, et bien que le dehors soit sans émotion, le dedans n'est que trouble et que sédition, et par contre dans Phèdre, c'est l'échec du contrôle de la passion, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, etc. Et la couleur, ce terme, on oublie toujours que couleur, ce sont les ornements rhétoriques qu'on appelle couleur. Couleur, on appelle l'harmonie en musique. Couleur, on appelle évidemment peinture, évidemment. Et le facteur commun à la passion, à sa traduction rhétorique, dans la peinture, dans la musique, dans le théâtre, dans la littérature, ce serait cela. Le dessin, c'est la ligne. C'est qui cerne, qui finit, qui définit un contour. Une mélodie, et qui donne le sens, d'après Rousseau, donc au XVIIIe siècle. Et la couleur, c'est l'ornement musical, c'est l'ornement de la peinture, c'est la couleur du visage qui change, dont ça traduit la passion, évidemment. Mais une passion qui déborde, comme la peinture qui baroque, qui dépasse la limite, qui excède la forme, qui arrive à la déformer. Alors la passion, pour moi, ce serait la couleur rebelle, qui déborde.
Nous parlions de rhétorique, oui. Benito Pellegrin. Ce que l'on appelait à l'époque l'amour à l'espagnol, c'est-à-dire une sorte de raffinement verbal érotique qui avait séduit toute l'Europe, est demeuré en fait une sorte de référence dans le langage amoureux.
Oui, l'amour à l'espagnol, Madame de Sévigné, donc, avait une grande nostalgie, les grands coups d'épée à l'espagnol. C'est un paradoxe là que vous soulevez qui est assez plaisant, puisque... Évidemment, l'Espagne, c'est Don Juan, c'est le mythe de Don Juan qui serait le l'envers de cet amour à l'espagnol, qui est l'amour fidèle, l'amour passionné, l'amour désespéré. Donc l'amant parfait, c'est l'amant espagnol. Et ça, vous le retrouvez, vous avez raison d'en parler, vous le retrouvez bien sûr dans les romans espagnols, dans les romans qui s'inspirent de l'Espagne, et vous le retrouvez aussi jusque dans les Indes galantes. Il y a de Rameau au siècle libertin, au XVIIIe siècle, où il y a dans les Incas et dans diverses aventures donc de cet opéra-ballet, il y a le parfait amant qui est l'espagnol et le français qui est le libertin. Vous voyez, ça n'est plus Don Juan, c'est l'amant donc espagnol qui est devenu l'amant fidèle. Je crois que c'est l'Indienne donc qui dit à l'un en français, vous aimez, ou à l'espagnol, vous aimez trop. Et au français, vous pas assez. Donc voilà, l'amour à l'espagnol qui hante donc l'esprit de ce temps. Vous avez cela aussi dans Lully. Il y a les Espagnols qui chantent, là, vous avez touché, vous avez eu tort sans doute, hein, parce que je serais intarissable sur la musique et l'opéra de ce temps, chez Lully, et avec des paroles de Molière. Donc, je crois que c'est dans Le Bourgeois Gentilhomme, dans les intermèdes que l'on saute toujours, où il y a l'amant parfait, qui est l'amant espagnol, qui dit que je meurs, donc, et je demande encore à mourir. Donc, je souffre, mais je demande encore à souffrir. Donc, on ne peut pas faire mieux comme masochisme. Donc, vous voyez, très très loin de Don Juan.
Lorsque l'on parle de passion, Benito Pellegrin vient très vite un titre à l'esprit qui est le traité des passions de Descartes, qui est une somme d'articles où en fait toutes les passions de l'âme sont examinées les unes après les autres. On a un peu le sentiment là que d'une certaine façon, Descartes se positionne en comptable des passions.
Dans les passions de l'âme, 1649, il analyse six passions qu'il dit primitives, dont l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie, la tristesse. Mais il ajoute, leur nombre est indéfini. Alors vous rendez compte, moi je vois là-dedans dans l'aveu d'un projet où la hantise toute une époque. C'est-à-dire c'est mettre du nom sur le nombre, dénombré et dénominé. Évidemment, ce n'est pas l'innombrable et l'innommable, mais une part de cet innombrable, une part de cet innommable, si les passions sont indéfinies, n'en prendre que six, c'est prendre la partie pour le tout, c'est ce qu'on appelle en rhétorique dont vous parliez la synecdoque, et Descartes dit bien, mon esprit qui est fini ne peut comprendre l'infini. Mais comment aborder l'infini ? Finalement, par ce tout petit bout fini que l'on va nommer, que l'on va analyser, que l'on va calculer, que l'on va mettre en chiffres. Et la passion apparaît très souvent, rappelez-vous, comme une sorte de monstruosité de l'âme ou du corps. Et d'un côté, on s'intéresse aux passions pour les décrire, pour les écrire, pour les exprimer et aussi pour les juguler essentiellement. Mmh. Il s'agit d'ordonner le désordre du monde, donc le désordre du monde, la passion, on parlait des orages, la tempête, du climat. Eh bien, ce sont les orages, les tempêtes de ce qui se passe dans le cœur humain. Une passion passe dans un regard, la colère, l'horreur, l'admiration, l'amour, etc., l'indifférence. Mais ça peut passer très rapidement comme des nuages insaisissables. Donc, il y a une entreprise folle à la fois de dire les passions sont indéfinis, sont infinis, et en même temps, on va essayer de les réduire en nombre pour les capter, pour les saisir, pour les reproduire, mais surtout pour les juguler, puisque quand même le traité des passions de l'âme de Descartes finit par la morale, comme chez tous les moralistes, Gracian. Il s'agit de dompter cet effet qui serait une manifestation du corps, une manifestation somatique de ce qui se passe dans l'esprit humain.
Mais pendant la durée de la passion, et je trouve que c'est merveilleusement bien exprimé dans votre roman Passion simple, et puis vous en parlez aussi très bien dans le journal Se perdre, il me semble qu'il y a une forme de faste et de générosité dans la passion, dégagée de tout système et de toute idée d'équilibre. C'est en ça que je dis généreux.
Oui, oui. On ne fait pas les comptes.
Annie Ernaux.
Voilà. Quelquefois, on les fait après. Hein. C'est une façon de, lorsque l'enchantement a pris fin, alors à ce moment-là, on peut faire les comptes de dire, mais oui, mais bon. Alors, quelquefois, on est très vulgaire. Hein. Bon, c'était la fameuse phrase de Swann. Perdre son temps et son argent pour une femme qui n'était même pas mon genre, dit-il. Ça peut aller simplement, j'ai été une poire ou etc. Bien. Mais tout cela n'entache en rien le moment où l'on vit la passion, où l'on donne sans compter son corps. C'est cette fameuse fatigue, c'est cette fatigue de l'amour, on veut aller le plus loin possible, mais aussi je te donnerai tout ce que tu voudras. Au fond, c'est ça, c'est vouloir donner, peut-être pas sans arrière-pensée, en pensant, il y a cette idée de donner pour s'attacher l'autre, hein, je crois que c'est seulement dans la passion, peut-être aussi, j'en parle pour moi, dans l'amour maternel, que l'on peut retrouver ce don sans contrepartie, sans contre-don. Et si on, dans le langage de la passion, en écrivant Passion simple, mon désir était de ne pas tomber justement dans la passion comme désordre et comme maladie ni comme folie. Et ne pas non plus entrer dans l'enchantement, l'effusion. C'était d'avoir le langage du constat, en fait, comme quelque chose donc qui permettrait d'échapper à ces deux pôles, en quelque sorte, de l'effusion et de la dénonciation.
Avec une écriture, et c'est assez remarquable, effectivement, qui est d'une grande pudeur sur un sujet qui ne l'est peut-être pas.
On attend surtout des femmes un certain langage de la passion. On attend en général plus d'effusion, de déploration aussi de la part des femmes. Et cela non plus, je ne le ressentais pas comme possible, tout simplement. Je crois que je voulais adopter une écriture qui soit au plus près des choses que l'on fait dans la passion, des choses que l'on pense, et les pensées sont comme des actes pratiquement, et que ce soit neutre, une sorte d'écriture neutre de la passion.
Vers la cristallisation. Récapitulons les sept époques de l'amour. Ce sont 1. L'admiration, 2. Quel plaisir, etc. 3. L'espérance, 4. L'amour est né, 5. Première cristallisation, 6. Le doute paraît, 7. Seconde cristallisation. Il peut s'écouler un an entre le numéro 1 et le numéro 2. Un mois entre le numéro 2 et le numéro 3. Si l'espérance ne se hâte pas de venir, l'on renonce insensiblement au numéro 2 comme donnant du malheur. Un clin d'œil entre le numéro 3 et le numéro 4. Il n'y a pas d'intervalle entre le numéro 4 et le numéro 5. Ils ne sauraient être séparés que par l'intimité. Il peut s'écouler quelques jours suivant le degré d'impétuosité et les habitudes de hardiesse du caractère entre les numéros 5 et 6. Et il n'y a pas d'intervalle entre le 6 et le 7. Stendhal, De l'amour, 1822.
De Stendhal toujours, mais cette fois-ci dans son journal, il y a cette phrase magnifique, Annie Ernaux. Il était au Havre le 30 avril 1811.
J'ai revu la mer, l'odeur de goudron m'a rappelé vivement Marseille et Mélanie. Est-il donc tout à fait impossible que je redevienne jamais amoureux ?
Tropisme de la passion amoureuse, des mots pour le dire, avec Annie Ernaux, écrivain, auteur de Passion simple et de Se perdre, publié aux éditions Gallimard, Pierre Mertens, écrivain, auteur de Pérasma aux éditions du Seuil, et Benito Pellegrin, professeur à l'Université d'Aix-en-Provence, auteur de Figuration de l'infini, l'âge baroque européen, publié aux éditions du Seuil. Texte, Phèdre de Racine et De l'amour de Stendhal, lu par Serge Renko, coordination Xavier Carrère, prise de son Noélie Pellegrin, mixage Christian Fontaine, Antoine Anglade,
Réalisation Doria Zénine, une émission de Catherine Pont-Humbert.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 juillet 2002. Vous pouvez la réécouter pendant 3 ans et la télécharger pendant 1 an sur franceculture.fr à la page des nuits.